Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'usage des contraceptifs s'est amélioré à Kinshasa et au Congo central, résultat des enquêtes récentes de l'école de santé publique, mais il y a encore des besoins à satisfaire dans le domaine de la planification familiale, estime le Fonds des Nations Unies pour la population. Au moins 80 groupes armés avec leurs leaders en pourparlers depuis deux jours avec les autorités congolaises à Muresa dans le sud Kivu. Objectif, ramener la paix dans cette partie du pays en proie à plusieurs groupes armés. La signature d'un acte d'engagement est attendue incessamment. Et puis, toutes les entreprises minières opérant dans le Haut-Katanga, invitées à respecter les normes environnementales, appel du ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, en mission dans cette province, met en garde les récalcitrants. Il est l'invité de ce journal. Madame, messieurs, bonsoir. Planification familiale. Le taux d'usage des contraceptifs s'est amélioré dans la ville de Kinshasa et dans la province du Congo central. C'est ce qui ressort des enquêtes menées dans ces deux provinces par l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Cela à travers le projet Performance Monitoring for Action. Les résultats ont été présentés ce mercredi à Kinshasa. Plus de détails avec Paul Matendo.
Selon Pierre Akilimali, principal investigateur du Performance Monitoring for Action, la collecte des données s'est déroulée entre décembre 2019 et février 2020. Il a expliqué que cette prévalence contraceptive est observée auprès de femmes en union de la ville de la province de Kinshasa et de la province du Congo central.
La prévalence contraceptive à Kinshasa s'est améliorée chez les femmes vivant en union. Elle est passée de 19% à 30%. C'est une bonne chose. Ces résultats aussi partagés pour Congo central. Au Congo central aussi, c'est la même chose.
Pour Lys Lombea, directrice nationale du programme de santé de la reproduction, la planification familiale est un facteur important pour le développement de la RDC.
Comme nous avons retenu la planification familiale comme une stratégie pour que le pays accède aux dividendes démographiques, donc au développement, il faut absolument que les populations aient accès à ces services de planification familiale.
Cependant, Victor Rokoto, représentant adjoint de l'UNFPA, signale qu'il y a encore d'énormes besoins à satisfaire dans ce domaine.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de réduire au strict minimum ces besoins non satisfaits.
Cette cérémonie a connu la participation du ministre de la Santé, Eteni Longondo.
Entre-temps, actualiser la feuille de route, faire participer les victimes dans le processus de sa mise en œuvre et mener les actions de vérification conjointe avec l'ONU, ce sont là quelques points des travaux de l'atelier national de validation du plan d'application du communiqué conjoint dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC, travaux tenus à Kinshasa du 14 au 15 septembre 2020. Le colonel Batabombi Apanda Jean-Daniel, commandant second du service de l'information et de communication des FARDC, qui est aussi membre de la commission des violences sexuelles et porte-parole de cet atelier, nous donne ici des détails au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Cette feuille de route a été validée par l'ensemble des experts. Et maintenant, les étapes suivantes, ce sera l'actualisation de la feuille de route parce qu'il y a la commission des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles qui a une feuille de route. Alors, cette feuille de route devra maintenant être actualisée en rapport avec la DENDON. Il y a plusieurs recommandations, mais ce qui a retenu peut-être notre attention, on a voulu à ce qu'on puisse quand même arriver à faire participer les victimes, les survivantes, à toutes les activités relatives à la mise en œuvre de cet addendum.
On va les faire participer? Comment?
Oui, mais il y a des organisations féminines qui sont sur le terrain et elles peuvent toujours participer d'une manière ou d'une autre. La deuxième recommandation, c'est que les cas cas documentés de violences sexuelles devra quand même faire l'objet d'une étude par une commission conjointe gouvernement et les bureaux conjoints des Nations Unies pour éviter la guerre des chiffres. Il faudra quand même connaître des précisions et surtout aussi, les participants ont également recommandé à ce qu'on fasse une étude sur le niveau de la confiance des survivantes à notre justice.
Je vous le disais en titre, au Sud Kivu, la réunion de sécurité entre les représentants des groupes armés et les autorités congolaises à Muresa, dans le territoire de Kabare, prend fin aujourd'hui. Il est prévu la signature d'un acte d'engagement entre les différentes parties prenantes en vue de ramener la paix dans cette partie du pays en proie à plusieurs groupes armés. Un comité de suivi sera également constitué pour s'assurer de la bonne exécution de l'intégration communautaire des groupes qui auront accepté de rendre les armes. Cette rencontre de 3 jours est organisée par la Commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réintégration communautaire, CIAP-DDRC. C'est là, avec l'appui financier de 3 ONG spécialisées dans la résolution des conflits, des précisions avec le ministre délégué à la Défense présent à ces assises, Sylvain Mutombo, au micro de Cynthia Bachizi.
Les leaders de groupes armés qui opèrent dans la province du Sud Kivu sont dans les ateliers afin de faire des propositions idoines pour arrêter les pratiques que le gouvernement a décriées depuis plusieurs années et se mettre sur la ligne des orientations du président de la République, la reddition et ainsi que leur désarmement, démobilisation, intégration et réinsertion. Donc tout se passe très bien. Tous les leaders de groupes armés travaillent vraiment avec détermination. Ils sont même prêts déjà, à partir de maintenant, signer une déclaration conjointe avec tous les groupes armés. Ils sont nombreux de plus ou moins 80 groupes armés ici présents avec leurs leaders. Une déclaration pour arrêter les hostilités et se mettre à la disposition du commandant 33e région militaire pour l'éventuelle démobilisation et la suite du processus.
Au Nord Kivu voisin, le chef du secteur de Bapéré en territoire de Lubero et le fonctionnaire délégué du gouverneur dans cette zone, accompagné de la section droits de l'homme de la MONUSCO, ont rencontré mardi à Butembo le commandant des opérations Sokola 1 Axe Sud, le général Opia Patrick. Il était question d'échanger sur la situation sécuritaire qui prévaut en secteur de Bapéré, précisément à Njiapanda et dans les villages environnants. La population locale fait face aux multiples exactions des groupes armés et réclame le rétablissement de la paix. Écoutez à ce sujet le fonctionnaire du gouverneur Monga Mabanga Julio au micro de Grace Amzati.
Et on venait d'échanger, on nous a rassuré qu'on aura mis fin à certaines irrégularités dans notre région. Et tout ne doit pas se dire au micro, mais au moins, sur les 3 groupes armés que vous connaissez et que nous avons toujours souligné, il y a celui des 1000 tours qui cause encore terreur et désolation auprès de la paisible population. Alors, par rapport à ça, il faudrait qu'on trouve une mesure urgente parce que la population ne doit pas continuer à en souffrir alors qu'il y a des promesses favorables auprès du gouvernement, auprès de l'exécutif provincial. Nous avons Congo et Bébi et nous avons l'UPLC et celui qui est basé à Abidjan et qui reste inoffensif pour le moment, mais il n'y a que 1000 tours qui causent terreur et désolation. Il nous a promis de trouver solution par rapport à ça, et comme je venais de le souligner tantôt, que tout ne doit pas se dire au micro. Mais l'unique message que je dois apporter à ma population, c'est avoir confiance en nous, qu'elle ne pense pas que nous nous restons amorphes, mais nous démenons pour la paix et le développement, une mission régalienne que nous a octroyée par l'exécutif provincial.
Entre-temps, ici à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC doit rencontrer ce mercredi le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, au cours de la conférence de presse des Nations Unies aujourd'hui à Kinshasa. Honoré Misengakala a pris part à cette conférence de presse. Il nous donne ici d'autres détails de l'agenda actuel de la chef de la MONUSCO.
Le tête-à-tête Tshisekedi Zerugui annoncé pour ce mercredi intervient 4 jours après celui que la représentante spéciale a eu le week-end dernier avec le président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila. Le porte-parole de la MONUSCO a également rappelé la présence la veille de Madame Leila Zerugui à l'ouverture de la session parlementaire de septembre, à laquelle d'ailleurs a participé pour sa toute première fois l'ancien président de la RDC. Il a aussi rappelé d'autres rencontres de la représentante spéciale a classé dans le cadre de sa mission de bons offices, notamment celle avec le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Par ailleurs, dans son message à la presse, Mathias Gilman a fait part des sentiments exprimés par Mme Leila Zerougui à la suite de l'effondrement des 3 mines artisanales à Kamituga dans le sud Kivu, effondrement qui a coûté la vie à des dizaines de gens. La chef de la MONUSCO note à propos de ce triste événement, a encore laissé entendre le porte-parole de la mission onusienne, que ce type d'accident arrive fréquemment et impose des mesures de sécurité préventive pour protéger ceux qui travaillent dans ces mines.
Parlons à présent de cet appel du ministre de l'Environnement et Développement Durable aux entreprises minières du Haut-Katanga. Nous voulons des investissements qui relèvent le niveau de vie de la population et non qui la tue. Claude Nyamugabo condamne ainsi la pollution de l'environnement par certaines de ces entreprises. S'exprimant à Lubumbashi après 2 jours de visite dans ces installations, il promet de prendre des mesures très prochainement pour faire respecter les normes environnementales. Le ministre Claude Nyamugabo de l'Environnement est au micro de Jean Gandou.
Le premier constat, c'est que ce qui nous avait été dit au niveau du gouvernement central a été le constat que j'ai fait, parce que nous avons reçu depuis quelques mois beaucoup de plaintes faisant état de ce que certaines entreprises minières polluent l'air, polluent l'eau, polluent même le sol. J'ai demandé au premier ministre d'effectuer une mission non seulement au Katanga mais également au Lualaba pour palper du doigt ces tristes réalités, et je peux vous confirmer aujourd'hui que cela est vrai. Je donne raison à notre population et à la société civile qui se sont mis ensemble pour décrier cet état des choses. Je l'ai constaté moi-même, mais c'est dommage qu'il en soit ainsi.
C'est où exactement que vous avez fait ce constat?
Je ne voudrais pas vous dire c'est où maintenant, parce que nos services techniques sont en train de travailler. J'annoncerai les décisions qui s'imposent, mais vous devez savoir que j'ai effectué une tournée, non seulement pour inspecter les entreprises minières de la ville de Lubumbashi, mais également des entreprises minières de la ville de Likasi. Je suis allé même jusqu'à Kambove et le constat est amer.
Je vous rappelle que le ministre Claude Nyamugabo est l'invité de ce journal. Parlant de l'environnement, à Goma, nous apprenons que les stations-service sont construites dans une promiscuité incroyable, ce qui constitue un danger pour la population. Le directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement au Nord Kivu a adressé à ce sujet la semaine dernière une note technique à l'autorité provinciale. Michel Buroko Chirimwami explique au micro de Rosalie Zawadi.
La règle générale, c'est qu'une station doit être distante d'une autre de 500 mètres. La règle est qu'une station doit être distante de la route principale au moins de 5 mètres. La règle est qu'une station doit être distante de maisons d'habitation à côté au moins de 17 mètres et qu'il y ait un moyen, il y ait une servitude qui passe. La règle est que les services anti-incendie doivent avoir accès facile aux stations. La règle est qu'on ne peut pas implanter une station-service en dessous d'une ligne électrique à cause de ce que nous appelons la zone ATEX. Les coves sont des volatiles qui peuvent exploser. Les stations, si elles sont ensemble, il y a des effets cumulatifs des stations. Moi, je peux bien protéger ma station, mais l'autre ne s'est pas protégé. On ne peut pas mettre une station de service en dessous des maisons. C'est impossible.
Notons que la ville de Goma compte autour de 50 stations-service selon un opérateur de ce secteur, dont une grande partie sur l'axe Goma-Sake. Direction le Kasaï oriental. Depuis l'annonce de la fermeture momentanée de la production par la société brassicole évoluant dans cette province, les entreprises utilisées dans la sous-traitance manifestent leur inquiétude suite à la décision prise par la haute direction. Un responsable d'une entreprise de sous-traitance sollicite ainsi l'implication du chef de l'État et du gouvernement congolais pour alléger les taxes qui pèsent sur cette société brassicole. Martin Chimanta, un des partenaires de la Brassicole, s'exprime à ce sujet au micro d'Esther Dalafina.
Nous sollicitons une implication directe du chef de l'État en tant que père de la nation. Au dossier de la fermeture de la brasserie, il y a beaucoup de charges avec elle pour la province, pour le pays. Il y a des tâcherons, il y a des partenaires, il y a des sous-traitances qu'on doit renvoyer comme ça et fermer la brasserie, les renvoyer comme ça au chômage. Vous avez ce que ça va coûter sur la province. C'est ainsi que nous avons voulu nous faire faire entendre pour que M. Castel, le propriétaire de la brasserie, et le gouvernement provincial, le gouvernement national, et l'implication du chef de l'État, qu'on trouve une piste de solution afin que le travail continue, parce qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en Mujimaï. Si on doit fermer celle-ci, l'AMIBA va bientôt reprendre, le pouvoir d'achat pourra récupérer sa position et on permettrait aux consommateurs de payer les produits de la brasserie. Parce que ce produit, il les importe, il paye des taxes en réduisant, par exemple, les taxes pour lui permettre de bien fonctionner en Mujimaï. Qu'on lui permette de faire aussi des recettes, que ça lui facilite de bien évoluer au lieu de fermer la brasserie.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Gabon. Le maire de Libreville est incarcéré pour corruption. Cela malgré un malaise qui a empêché son interrogatoire lundi 13 septembre. Le maire Léandre Nzoué a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville par le procureur de la République. Ce dernier l'a inculpé, entre autres, pour détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux. À la tête de la mairie de la capitale gabonaise depuis 19 mois, Léandre Nzoué, 63 ans, cadre du parti au pouvoir, aurait détourné plus d'un milliard de francs CFA. Il risque une lourde peine de prison. Au Mali, la junte militaire a participé à son premier sommet de la CDAO à Accra, un mini-sommet extraordinaire sur la crise malienne. Le numéro 1 de la junte, le colonel Amissi Goïta, avait rendez-vous avec les présidents de l'organisation au dernier jour de l'ultimatum qu'il lui avait fixé. Il devait les convaincre de lever les sanctions économiques qui pèsent sur le Mali depuis le coup d'État du 18 août dernier et demander à l'organisation régionale d'accompagner la transition politique malienne, un plan qui prévoit entre autres une transition de 18 mois, soit 6 mois de plus que ce que recommande la CDAO, mais l'organisation régionale maintient pour le moment le cap et les sanctions et exige toujours une direction civile à la transition. Et puis, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE se montre un peu plus optimiste que prévu pour l'économie mondiale durement frappée par la crise du coronavirus. Dans ses dernières prévisions publiées, l'OCDE prévoit un repli limité à 4,5% du produit intérieur brut global cette année et une hausse de 5% l'année prochaine si tout va bien. Si le pire a été évité, c'est grâce aux politiques publiques extraordinaires mises en place par les gouvernements pour soutenir les ménages et les entreprises, se félicite l'OCDE qui exhorte les pays à ne pas relâcher leurs efforts.
L'invité.
Toutes les entreprises minières opérant dans le Haut-Katanga doivent respecter les normes environnementales. Appel lancé par le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Diamugabo est en mission d'inspection dans cette province. Par ailleurs, il annonce des mesures très prochainement à l'encontre des entreprises qui polluent l'environnement. Le ministre Claude Diamugabo s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
La population du Haut-Katanga a toujours décrié la pollution de son environnement. Et vous êtes le responsable de ce secteur. Vous êtes arrivé à Lubumbashi. Quel est le premier constat que vous avez fait par rapport à cela?
Le premier constat, c'est que ce qui nous avait été dit au niveau du gouvernement central a été le constat que j'ai fait, parce que nous avons reçu depuis quelques mois beaucoup de plaintes faisant état de ce que certaines entreprises minières polluent l'air, polluent l'eau, polluent même le sol. Et j'ai demandé au Premier ministre d'effectuer une mission, non seulement au Katanga, mais également au Lualaba, pour palper du doigt ces tristes réalités. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que cela est vrai. Je donne raison à notre population, à la société civile qui se sont mises ensemble pour décrier cet état des choses. Je l'ai constaté moi-même, mais c'est dommage qu'il en soit ainsi.
C'est où exactement que vous avez fait ce constat?
Je ne voudrais pas vous dire c'est où maintenant, parce que nos services techniques sont en train de travailler. J'annoncerai les décisions qui s'imposent, mais vous devez savoir que j'ai effectué une tournée, non seulement pour inspecter les entreprises minières de la ville de Lubumbashi, mais également des entreprises minières de la ville de Likasi. Je suis allé même jusqu'à Kambov et le constat est amer.
Monsieur le ministre, ce n'est pas la première mission qui vient séjourner dans le Haut-Katanga en rapport avec cette question. Et la population a toujours attendu que sa voix soit entendue afin qu'elle puisse réellement recouvrer ses droits. Qu'en sera-t-il pour cette fois-ci?
Je n'en connais pas beaucoup de missions dans ce sens-là, parce que ce que nous avons rencontré, même des expatriés nous ont dit que c'était la première fois que le ministre de l'Environnement venait palper du doigt ce genre de choses. Moi, je parle de ma mission et je vous promets qu'elle produira des fruits. Et les fruits de cette mission seront positifs pour notre population. Parce que moi, en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable, j'ai l'obligation, j'ai mission de protéger notre population par rapport aux pollutions qui sont constatées dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo.
Et très souvent, quand les entreprises minières arrivent ici dans le Haut-Katanga, peut-être dans le là-bas où vous serez, généralement, c'est la population qui en subit le coup. Et toutefois, qu'elle crie, et son cri, c'est comme si elle le faisait dans le désert, et rien de mieux ne se fait. Est-ce que cette fois-ci, il y a raison d'espérer?
Il y a raison d'espérer. Cette mission se terminera par des décisions qui intéresseront certainement notre population. Je vous redis que nous avons obligation de protéger notre population, tout en encourageant les investissements en République démocratique du Congo. Je voudrais d'ailleurs saluer certains investissements que j'ai vus ici. Il y en a qui respectent les normes environnementales et ceux qui ne les respectent pas seront amenés à les respecter parce que ces normes ressortent des lois de la République démocratique du Congo et tout investisseur qui décide d'investir en République démocratique du Congo doit être soumis à nos lois.
Un message à la population qui ne respectant pas aussi les normes environnementales.
Oui, il m'a été dit par les exploitants miniers que notre population aussi a sa part de responsabilité, étant donné que parfois c'est elle qui va s'installer dans les concessions minières. Et je voudrais demander aux responsables des affaires foncières de faire attention sur ce plan-là. Ils ne peuvent pas installer notre population dans les concessions minières déjà concédées aux tiers. Et notre population devrait faire attention à cela afin de ne pas s'exposer elle-même à la pollution.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, c'était là notre invité, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo. Il s'entretenait avec Jean Gandou. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, supervisé par Axel Goncho, coordination de Richard Junior Kamunga. Belinda Bosuma vous l'a présenté, Mimi Kindo était à la mise en onde. Merci de votre attention.